Découvrez les Neuropods, le tout nouveau balado du Centre étudiant de soutien à la réussite des services à la vie étudiante de l'Université de Montréal. Explorez le mieux-être étudiant et la santé cognitive avec les neuropsychologues Anne-Laure Massé et Magali Loisel. Écoutez les 3 épisodes dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute populaire.
Vous écoutez CISM 89.3 FM, La Marge.
Allô tout le monde, il est midi et vous êtes sur les ondes de CISM 89,3 La Marge, la radio de la montagne de l'Université de Montréal, et vous écoutez présentement le 13e épisode de Bulle d'écoute. On est déjà presque à la fin de cette saison où, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, ici on se réunit chaque mardi pour discuter ensemble de sujets qui nous touchent, nous passionnent et qui sont également d'actualité. Je suis Mélissa Samano-Ouellette, votre animatrice d'aujourd'hui, et comme d'habitude, je suis entourée de ma merveilleuse équipes de chroniqueurs, chroniqueuses et journalistes préférés, Lauriane, Maëna, Tristan et Anne-Lee. Comment ça va tout le monde?
Hello!
Ça va bien, allô!
Donc, un petit rappel qu'il nous reste seulement un épisode la semaine prochaine et que cette expérience avec Bulle d'écoute touche pratiquement à sa fin. Comment on se sent par rapport à ça, tout le monde?
Ah, oh, ça va manquer, ouais. Honnêtement, de pouvoir vous partager toutes les nouvelles.
C'est sûr.
Pareil.
Mais je sais pas pour vous, mais moi, je suis vraiment fière et contente d'avoir pu partager tout ça avec vous. C'est pour ça qu'on va en profiter encore plus dans l'épisode d'aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez écouter ou réécouter tous les épisodes de La Bulle d'écoute sur Spotify, Apple Podcasts ou sur le site de CISM.ca. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va entre autres parler de crimes avec Maëna, qui débutera avec La Bulle Société et qui va nous parler des obsessions pour les séries criminelles. On va parler aussi des opportunités dans le marché du travail chez les personnes vivant avec un TSA avec Anne-Lee, du trafic sexuel à Montréal avec Tristan et de greenwashing au JO avec Lauriane. Donc, restez avec nous ce midi. Ça risque d'être un épisode qui va vraiment être chargé. Puis avant de se lancer dans le programme, j'aimerais commencer par vous poser la question. C'était quoi comme votre fin de semaine pour vous? Est-ce que vous avez fait des trucs en particulier? C'était quoi le highlight de votre fin de semaine?
Ouf, moi c'est pas très... J'ai travaillé.
On est tellement plates.
Être étudiant, on est des étudiants endettés.
En tout cas, moi j'ai eu la chance en fin de semaine d'être invitée à un événement de mode qui était vraiment intéressant. Ça s'appelle Ligne de fuite. Puis ça m'a vraiment surprise. C'était vraiment une belle expérience. Puis je vous en parle aujourd'hui parce que justement, Ligne de fuite, c'est un événement qui a été créé pour les étudiants de tout genre, pour ceux qui s'intéressent beaucoup aux arts, à la mode, au design. Et j'ai eu la chance de rencontrer Milan, qui est l'organisateur de tout ça. Ça fait maintenant 5 ans qu'il fait Ligne de fuite. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent à ça, je vous invite à aller voir leur page Instagram aussi, qui est ligne_fuite, parce que c'était vraiment un bel événement. Puis, ils vont en refaire un autre le 14 décembre. Puis, c'est vraiment une belle chance pour les jeunes de pouvoir s'exprimer dans l'art sans nécessairement que ce soit coûteux. Puis justement, c'est à but non lucratif, mais c'était vraiment une belle expérience. Il y avait beaucoup de jeunes designers. Puis j'ai eu la chance de parler avec Milan aussi, qui dit qu'il faut toujours rêver grand, qui est un professeur de la salle, qui donne beaucoup d'opportunités pour les jeunes. Donc, pour ceux que ça intéresse aussi de l'Université de Montréal, je les invite à aller voir ça. Maintenant, sans plus tarder, on va parler de crimes et de quand ces actes deviennent l'objet d'obsessions autour de nous et dans les séries télévisées. Vous êtes bien sur les ondes de CISM 89,3 La Marge et on en parle tout de suite avec Maëna. Série, podcast, film, ces dernières années, la true crime a explosé en popularité, captivant un public toujours plus large, que ce soit pour relater des faits criminels réels ou pour explorer de nouvelles pistes d'enquête. Ces récits fascinent et interrogent. Bien que les histoires soient souvent choquantes, certaines personnes parviennent à trouver une forme de catharsis dans ces récits. Mais tout le monde ne partage pas la même sensibilité face à ce genre d'histoires et d'images. Notre intérêt pour le true crime révèle-t-il des aspects plus profonds liés à notre santé mentale? Notre journaliste Maëna est partie enquêter. Donc, je vous laisse écouter un reportage de Maëna Gave-Bonnet.
Si le genre de true crime, enquête criminelle en français, ne vous est pas familier, vous avez déjà sûrement entendu parler de Jeffrey Dahmer, des frères Menendez ou encore de Jeffrey Epstein, disponible sur les plateformes de streaming. Des histoires adaptées selon des faits réels, souvent accompagnées de témoignages, de preuves et de détails, souvent exclusifs sur les criminels et leurs victimes. Autrement dit, le mélange parfait entre immersion et mystère qui suscite l'intérêt chez les spectateurs.
Déjà, puisque souvent c'est des histoires vraies, donc je trouve ça intéressant de... C'est un peu glauque, hein, mais de voir ce qui se passe dans le monde, ce que les gens font, ce que les gens sont capables de faire. Puis des fois, c'est juste aussi pour se faire flipper. Plus pour se mettre dans un mood de « ok, là on va avoir des sensations fortes parce que ça va nous faire peur, le son, les images, le suspense aussi va nous faire peur, donc voilà. »
Un genre dont la popularité est en constante progression. En 2022, elle représentait d'ailleurs 23% des spectateurs sur les plateformes de streaming. Mais face à la multitude de choix disponibles, qu'est-ce qui pousse le spectateur à privilégier ce type d'histoire dans son moment de détente? Notre fascination pour le true crime reflète-t-elle une simple curiosité ou soulève-t-elle des questions plus profondes sur notre santé mentale et les mécanismes qui sous-entendent ce comportement singulier? Monsieur Jean Proulx, professeur à l'école de criminologie de l'Université de Montréal et psychologue clinicien et chercheur de l'Institut Philippe Pinel de Montréal, nous explique que ce genre de contenu ne se limite pas seulement au divertissement.
La grande différence entre Monsieur Tout le monde et un psychopathe ou un criminel très actif, c'est que pour le criminel très actif, le crime, c'est sa façon de se valoriser, d'exprimer son agressivité, d'avoir des sensations fortes. Alors que Monsieur Tout le monde, de manière imparfaite de notre quotidien, dans notre travail, on va chercher des valorisations, on va exprimer une certaine agressivité, la compétitivité qu'on va mettre à monter des projets, à les défendre. Donc, les besoins que le psychopathe, que le criminel va assouvir dans les activités criminelles, Monsieur Tout le monde va le faire, lui, dans d'autres activités. Et une autre caractéristique importante, c'est que le psychopathe, lui, n'a pas d'empathie. Monsieur Tout le monde, lui, en général, a de l'empathie. Et de le voir dans un film, on sait que c'est un film, alors que le criminel, c'est sa vie. Je pense que le psychopathe, c'est un peu l'extrême du criminel. Et les films sur les psychopathes, les gens aiment ça.
Tout en suscitant une admiration pour la complexité des intrigues, ces récits répondent également à un besoin d'évasion et de sensations fortes, offrant un échappatoire aux pressions et frustrations du quotidien.
C'est des mécanismes secondaires qui nous permettent d'évacuer certaines hostilités, certaines frustrations, certains ennuis qu'on peut avoir. Un peu l'humeur dans laquelle tu es, t'es quelqu'un qui, un voisin qui t'embête depuis chaque hiver, il jette sa neige sur ton terrain, puis t'écoutes un film de vengeance, parce que c'est un bon film de vengeance, ça va te faire du bien. Ça te permet un peu de catharsis par procuration de... Tu vas pas oublier de frapper le voisin, ça va écouter un film.
Mais cette fascination va plus loin. Elle révèle une forme d'admiration pour ces comportements extrêmes des tueurs. Leur capacité à défier les normes sociales, bien qu'effrayante, intrigue profondément et permet de développer une dimension éducative à ce genre de contenu.
Devant une peur rationnelle face à un tel, de comprendre, ça permet de gérer aussi notre peur. Puis de voir comment la police le gère, ça aussi ça permet de voir que ce n'est pas inéluctable.
Au-delà du simple plaisir de regarder, notre fascination pour les récits criminels révèle des aspects profonds de la psyché humaine. Entre besoin d'évasion, admiration et exploration de nos propres peurs, ces histoires agissent comme un miroir de nos émotions les plus complexes. Que l'on y voit une catharsis ou une manière d'apprivoiser nos angoisses, elles témoignent surtout d'un attrait universel pour ce qui dépasse les limites de l'ordinaire. Maïna Gaffe-Bonnet pour Bulle d'écoute.
C'était vraiment une intervention hyper complète. J'ai appris énormément de choses avec Monsieur Jean Proulx, justement, qui a très gentiment accepté de discuter avec moi. Il m'a fait... parce qu'en fait, il est professeur aussi à l'école de criminologie de l'UDEM, puis on a parlé pendant 30 minutes, puis j'ai appris tellement de choses. Mais qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous? Tu sais, comme moi, à la base, quand je me suis posé la question, je pensais vraiment que c'était relié exclusivement à la santé mentale. Puis tu sais, que je me disais, ok, mais les gens qui regardent ça, ils ont vraiment un grain dans le cerveau, c'est pour regarder ça. Moi, la première, hein, c'est pas du jugement. Mais je pensais vraiment que c'était lié à ça. Puis tu sais, je pensais que c'était dû au fait que justement le taux de criminalité il augmente, fait que du coup on essaie de retranscrire nos peurs dans ce genre de choses, mais en fait pas du tout. Enfin, il peut y avoir une part de ça, mais pas exclusivement.
Mais je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression aussi que depuis la COVID, on dirait qu'on était tellement on devait trouver des moyens justement de s'évader, comme tu as dit dans ton reportage un peu, que j'ai l'impression qu'il y a eu toute une vague de gens qui se sont intéressés aussi plus au true crime dans les dernières années. Je sais pas si c'est juste moi qui ai remarqué ça, mais je pense que ça a un lien, selon moi, là.
Puis il est de plus en plus médiatisé aussi.
Mm-hmm. Il m'expliquait justement que durant les dernières années, le taux de criminalité, il a baissé, mais par contre, les faits, ils sont beaucoup plus médiatisés. C'est pour ça que tu as l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Ouais. Mm-hmm. Mais ouais. En fait, je me rappelle plus exactement des chiffres, mais il disait que le taux, par exemple, aux États-Unis, il était deux fois plus grand qu'au Canada, mais c'est parce qu'il n'y avait pas le même nombre d'habitants. Mm-hmm. Et que si tu faisais le calcul et que si tu ramenais justement le taux de crime au nombre d'habitants par le même nombre de mètres carrés, enfin en tout cas vous avez compris, ça revenait à peu près au même. Donc c'est juste qu'ils sont beaucoup plus médiatisés et je trouve ça fou.
Moi je trouve ça fou qu'il y a du monde qui ont des productions puis qui reçoivent de l'argent sur l'histoire de quelqu'un qui a tué du monde. Moi c'est ça que je trouve.
Mais des fois ça a juste des limites dans le sens où il faut faire attention, par exemple. Des fois, on romantise. Il faut faire attention que ce soit pas trop glorifié, puis pas trop romantiser les faits non plus, parce que ça peut avoir genre l'effet inverse, t'es genre.
Ben oui.
Parce que c'est bien de dénoncer ça,
mais
bien le faire. Parce que faut faire attention quand même, parce que moi je trouve il y a beaucoup de séries justement de ce genre qui glorifient peut-être un peu trop. Puis tu sais, quand toi t'as le recul pour t'en rendre compte, c'est bien, mais c'est pas tout le monde qui ont ce recul là et tu sais des personnes, je sais pas, moi ça peut leur donner des idées, on sait pas, tu sais, genre c'est pour tout là, genre je veux dire donc faut faire attention, je pense.
Mais c'est comme l'effet Dahmer, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une grosse polémique justement parce qu'il y avait des filles qui étaient comme oh my god, je crush sur Dahmer.
Ouais.
J'étais comme wow, ok là.
Mais ça aussi c'est vraiment un truc là, des filles qui sont intéressées par les criminels, ça a toujours existé, c'est quand même fascinant.
En mode syndrome de Stockholm,
je sais pas d'où ça vient, mais
c'est juste Guy Turcotte, là on a beaucoup parlé là, puis c'est il y a des filles qui écrivent genre aux médias, c'est l'homme de ma vie, est-ce que je peux lui envoyer des cadeaux, moi je te marierai. Ah, c'est fou quoi? Le monde. Ouais même chose pour Luca Rocco Magnotta. Ah, mon
ouais,
Dieu.
Luca Rocco,
quand j'ai écouté le documentaire, ça m'a traumatisée.
Moi aussi, sur Netflix.
Ouais. Puis il y a du monde qui regarde la vidéo complète, puis je suis comme oh mon Dieu, justement vous êtes des psychopathes là.
Oh my god. Mais c'est tu fou, vois là. Quelque chose qui m'intéresserait full, ce serait d'écrire des lettres aux tueurs en série, ou en tout cas des gens qui sont incarcérés, pour avoir leur point de vue. Mais pas en mode déclaration d'amour, là, juste pour avoir leur point de vue, parce que je trouve ça hyper intéressant. Parce que tu sais, il y a quand même une différence entre penser faire quelque chose et passer à l'acte. Tu vois?
Ouais.
C'est fou. Moi, je trouve ça fou.
Mais mettons,
le processus derrière.
Mm-hmm.
Quand j'ai vu le documentaire Menendez, des frères Menendez, ben moi, j'ai pas réussi à le finir. Là. Je trouvais ça vraiment trop percutant, surtout à la fin, les tribunaux, quand tu vois les deux côtés.
Oh mon Dieu, ça, c'est quelque chose.
Mais je pense que. Genre, je suis totalement d'accord avec elle. Mais il y a aussi une façon de... Comment quelqu'un peut penser aussi différent que moi? Genre, comment quelqu'un peut pousser à des agissements, c'est de vouloir comprendre l'autre? Je pense qu'il y a beaucoup d'empathie aussi, peut-être, dans...
Il y a eu beaucoup d'empathie de la part des médias pour les frères. Ouais.
Justement, ça a été... Il y a un juge, du coup, avec...
Il a réouvert l'enquête.
La série qui a rouvert l'enquête pour...
Ouais, c'est vrai.
D'ailleurs, moi je savais pas, mais après par la suite j'ai appris que le titre Monsters, c'était pas nécessairement par rapport aux frères, que c'était par rapport à leurs parents.
Aux parents.
En fait. Oh. Tu sais, comme c'est qui les Monsters au final.
Oui, ben c'est ça. Je pense que c'est ça l'angle du.
Ouais.
Mais tu vois, au début de notre entrevue avec Monsieur Jeanbroux, il m'avait cité une citation. Je saurais plus vous dire d'où ça vient, mais c'était est-ce que justement ce genre de personnages, est-ce que c'est plus des héros ou alors est-ce que c'est vraiment des fous? Tu vois, puis la limite est quand même assez fine parce que tu te poses vraiment la question, ils sont fous, mais en même temps tu les admires parce que c'est comme moi, je serais jamais capable de faire ça.
Ouais, ben c'est comme Luca Rocco Magnotta, lui aussi, il voulait se faire reconnaître peu importe
Sorry pour l'expression, c'est fucked up, là, sa mentalité, là, il voulait suivre.
Il se prenait pour une célébrité, en fait, là. Pis...
Mais c'est ça, c'est un.
Ben il a repris Catch Me If You Can.
Exact.
C'était ça son but.
Exactement.
Fait qu'il. Ah, moi, ça m'a traumatisé.
Pauvre petit chat.
Pauvre humain aussi, on l'oublie pas, mais ça commence par des chats. Mais il y a beaucoup de monde qui passe par le crime, qui commence sur des animaux, puis qui développe le goût.
Mm.
Puis après ça, ils vont vers des humains parce que c'est comme l'adrénaline que. Moi, ça m'écœure.
Puis c'est pas pour cautionner tous ces agissements-là. Ces individus-là qui commettent des crimes, tu sais, on se rend compte que c'est souvent des personnes traumatisées ou des personnes qui ont vécu beaucoup de violence dans l'enfance et tout. Donc, ça devient difficile en tant que spectateur
d'avoir les deux côtés de la médaille, comme
c'est
tu disais tantôt, maintenant.
C'est plus
parce qu'ils n'ont pas d'empathie du tout, en fait. Leur mécanisme, il est totalement brisé.
Ouais, c'est sûr que c'est des enjeux psychologiques aussi que ces gens-là ont. Ben, merci beaucoup, Maïna, pour ce reportage. On se retrouve tout de suite aussi pour une courte pause musicale avec Kodak Jetable de Louis Clavis et Claudia Bouvette. Et au retour, on parle des gens qui ont un problème de TSA avec Anne-Li. À tout de suite.
c'est beau quand on essaie, mais c'est du pareil au pire. L'espoir est là, mon setup chambre en linge. Dans l'océan les oubliables, on peut nager longtemps. Tu me rends pas faire le spectacle, c'était pas au premier rang. Tu me rends peut-être pas faire grand chose ailleurs d'ici un an. T'étais seulement de passage pour ensoleiller avril. Juste le temps de Kodak jetable, beat un bomb sur nos fatigues. Si on sait que le temps arrange rien, oui, c'est bien s'étendre si on s'éteint. L'univers s'éteint quand on s'allonge. Kind of blue and repeat dans ton salon.
Retour sur les ondes de CISM 89,3 La Marge. Il est midi 17, c'était Kodak jetable de Louis Clavel, feat. Claudia Bouvette. On retrouve maintenant Anne-Lie qui va nous parler d'un sujet assez important, celui des opportunités limitées sur le marché du travail pour les personnes vivant avec un TSA. Elle a d'ailleurs rencontré Quentin Tison et Marie-Claude Poirier qui ont accepté d'être sur les ondes de notre émission. On l'écoute à l'instant.
Oui, en effet, Mélissa, c'est une très mauvaise nouvelle pour les parents et les éducateurs des jeunes en difficulté académique. En septembre dernier, Montréal cumule en 2 ans 26 écoles d'adaptation scolaire abolies. Pourtant, ces écoles sont importantes pour les élèves qui ont des besoins particuliers. Aujourd'hui, on va se concentrer davantage sur les personnes qui vivent avec un TSA.
Mais c'est quoi exactement un TSA?
Le DSM-5 définit le trouble du spectre de l'autisme, le TSA, comme ceci. C'est un trouble neurologique permanent qui se caractérise par des déficits de la communication sociale, un mode répétitif et restreint dans les comportements et des sensibilités ou des intérêts sensoriels inhabituels. C'est dommage que certains employeurs aient des attentes négatives par rapport aux compétences des personnes qui ont une condition neurologique. Puis je trouve ça triste que la société fasse pas plus d'efforts pour les intégrer, déjà qu'eux ont de la difficulté eux-mêmes à le faire. Ce sont des boules d'amour. En plus, moi, j'ai travaillé avec eux pendant 2 ans en cinéma. Puis quand ils sont passionnés par quelque chose, ils foncent à 100%. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Puis j'espère que ça va ouvrir les gens là-dessus.
Anne-Lie vous présente un reportage qui parle du programme FPT, Formation préparatoire au travail, offert dans des écoles d'adaptation scolaire qui aide à accompagner ces jeunes à devenir. Donc, on l'écoute tout de suite.
Au Québec, seulement 20% des adultes sur le spectre de l'autisme sont employés à temps plein, malgré leurs compétences souvent exceptionnelles. Cette statistique met en lumière un problème important, l'intégration des personnes vivant avec le trouble du spectre de l'autisme dans le milieu professionnel.
Mais là, c'est trop de job. Je vais pas m'en occuper. Oh non, moi, un stagiaire de plus, j'ai tellement peu de main-d'œuvre sur le plancher, vous allez me donner de la job. Tu sais, en surplus, ça me tente pas.
De plus en plus de milieux éducatifs et entreprises se mobilisent pour changer la donne. Comment ces environnements s'adaptent pour mieux inclure les personnes TSA sur le marché du travail?
Il y a énormément de milieux qui sont disponibles, mais l'objectif, c'est de créer les bons liens.
Le SAS Outremont, le secondaire adapté à ta situation, fait partie des écoles qui offrent le programme FPT, la formation préparatoire au travail.
J'ai d'ailleurs pu m'entretenir avec Marie-Claude Poirier, qui y enseigne depuis plusieurs années.
J'entame ma 30e année d'enseignement. J'ai toujours enseigné avec les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, mais ça fait au moins une bonne dizaine, douzaine d'années que maintenant je travaille avec le programme qui s'insère dans le parcours de formation axé sur l'emploi. A, il n'a pas réussi son secondaire 1. Bing, il prend déjà la passerelle direction école du SAS pour aller dans un programme de formation préparatoire au travail. Parce qu'on n'a pas d'autre chose à leur proposer. Je vais accueillir des élèves qui ont au moins 15 ans et on leur permet d'aller développer une meilleure connaissance de soi, une meilleure estime de soi, de connaître aussi c'est quoi leurs intérêts, qu'est-ce que je veux pour moi plus tard, tant en tant que personne, comme citoyen, mais en tant que travailleur aussi.
D'où vient le programme FPT? Qui l'a mis en place? Est-ce que c'est la direction ou est-ce que c'est le ministère?
C'est le ministère. C'est vraiment un programme qu'on retrouve à la grandeur de la province du Québec. On l'a vraiment mis à la grandeur de la province du Québec, avec une même terminologie pour s'assurer aussi que le programme qui est enseigné soit identique à travers la province. Mais ça fait vraiment plusieurs années. La preuve, ça fait bientôt 15 ans, 12-15 ans que je suis ici, puis ça existait avant mon arrivée. Je trouve que c'est un programme qui répond tellement bien aux besoins de notre clientèle. Puis pour nous, quand on les voit graduer à 21 ans, c'est les plus belles réussites qu'on a là. T'sais, on les voit aller sur le marché du travail, ils nous donnent des nouvelles, ils nous envoient des photos.
Quentin Tison, ancien étudiant dans le programme FPT, aussi élève de Marie-Claude à l'école du SAS, avait de grandes craintes pour se rendre sur le marché du travail.
Quand j'étais au SAS, on va dire, moi, ma grosse contrainte, c'était de dire aux autres que j'étais TSA, parce que j'avais peur du jugement et tout. Puis genre, au fil du temps, j'ai été plus à l'aise de le dire et d'en parler.
Tout est possible, là. On a un beau cas d'élève, là, il y a quelques années, qui est arrivé puis qui se disait « je serais capable de rien faire dans la vie ». Puis finalement, il travaille dans un service de garde, il est aide-éducateur, puis il s'est découvert une passion. Il est employé maintenant du centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Il a un emploi, il a un logement. Donc, ça va dépendre vraiment du cas par cas.
Il y a un emploi actuel, puis je travaille avec la joie à Outremont. Je travaille au service de garde. Ben genre, au début, je voulais pas qu'ils apprennent que j'avais un TSA. Mais j'ai été... Genre, je voulais pas genre, leur dire en face. Mais j'ai été d'accord pour que le patron dise à toute l'équipe que j'avais un TSA. Moi, j'avais juste une force, puis c'était vraiment de pas abandonner mes tâches, peu importe la situation que je vivais. Fait que dans le fond, ils m'ont vraiment fait... Comme si je fais partie de l'équipe, parce que ils m'ont fait des tâches que habituellement, genre, ils feraient pas à d'autres... stagiaire, admettons.
Je trouve que la FPT, c'est tellement payant au niveau de l'humain, au niveau du développement de soi, au niveau du bonheur qu'ils vont aller chercher, puis de la confiance en eux qu'ils vont aller chercher. Ça vaut toutes les payes du monde.
En contrepartie, Marie-Claude considère que les écoles d'adaptation scolaire sont peut-être pour le ministère de l'Éducation les enfants pauvres des services éducatifs.
Je sais bien, c'est pas demain matin qu'on va avoir des nouvelles écoles, je me leurre pas, mais d'avoir peut-être du budget, d'avoir plus de services, d'avoir plus d'ergothérapeutes, de physiothérapeutes, d'orthophonistes, de psychologues, de psychoéducatrices, tu sais, tout ça, là, nos élèves là, en ont besoin. Là. Si on pouvait prioriser nos élèves à besoins particuliers, à nos élèves qui ont vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de défis, mais qui peuvent tellement apporter après à la société. Ouais, si on pouvait leur donner cette chance-là, ça serait magnifique.
Un reportage de Annelie Trudel.
Oui, ben aujourd'hui, je vous invite à réfléchir avec moi sur la manière dont les milieux éducatifs et professionnels tentent ou peinent à inclure les personnes TSA sur le marché du travail. Tu sais, moi, je suis sûre que vous croisez 1 000 et 1 personnes par semaine qui ont été TSA puis que vous en rendez même pas compte. C'est juste l'idée d'avoir un employé avec un trouble neurologique. Le monde se met une barrière, tu sais.
Et justement, je sais pas si ça se passe plus en France, mais par exemple, je sais qu'à Paris, il y a beaucoup de restaurants de plus en plus qui ouvrent et justement qui emploient des personnes, tu vois, avec un TSA ou même plus largement, genre des personnes handicapées, tu vois. Je sais pas si t'as vu ça, Maïna, là, mais en tout cas, à Paris, je sais qu'il y a beaucoup, ça se fait de plus en plus, là.
Mais au Québec, c'est comme on dirait, au Québec, le ministère met le minimum.
Ouais.
Tout ce qui est santé mentale, justement, le minimum. Puis arrangez-vous avec ça. Puis malheureusement, ben c'est une situation qui est là depuis des années. Là, on en parle un peu de plus en plus. Par contre, hier, il y a eu un reportage à Radio-Canada, je pense, Zone Économie aussi. Il en parlait que tous les milieux éducatifs sont pas assez discutées, sont pas assez prises en compte. Fait que peut-être que ça va envoyer un bon message. J'espère qu'ils nous écoutent puis qu'ils vont donner un petit peu plus du sien, d'effort.
Mais merci beaucoup, Annelie, pour ce reportage vraiment intéressant. On remercie encore tous ceux qui ont contribué au reportage à Quentin Tison et Marie-Claude Poirier. Maintenant, on parle encore d'un sujet qui est assez actuel et qui est très peu parlé. On parle de traite sexuelle avec Tristan. À tout de suite.
Oui, alors aujourd'hui, on va lever le voile sur une réalité troublante qui touche Montréal, une ville qui est, à mon goût, en tant qu'expatrié, je trouve un peu trop souvent perçue uniquement comme une métropole vibrante et accueillante. Montréal est pourtant une plaque tournante du trafic sexuel, un phénomène complexe qui mêle crime organisé, vulnérabilité sociale et injustice structurelle. Selon plusieurs rapports de la Gendarmerie royale du Canada et de Statistiques Canada, le Québec est l'une des provinces les plus touchées par la traite des personnes, avec Montréal au centre de ce réseau criminel. La ville est particulièrement vulnérable en raison de sa proximité avec la frontière américaine, de sa diversité culturelle qui peut être exploitée pour masquer les victimes et de son importance dans l'industrie touristique. Un rapport de l'Observatoire canadien sur la traite des personnes souligne que plus de 90% des victimes identifiées au pays sont des femmes et des filles, et environ un quart d'entre elles sont encore mineures. À Montréal, cette réalité prend une ampleur dramatique avec des cas de recrutement dans les centres commerciaux, sur les réseaux sociaux, etc. Les trafics utilisent des méthodes sophistiquées pour recruter leurs victimes. Des promesses de travail ou de meilleures conditions de vie sont utilisées pour attirer des personnes qui sont souvent vulnérables, issues de milieux précaires ou des personnes immigrées. Montréal, avec ses grands événements comme les festivals, les concerts internationaux, devient également un terreau fertile pour ces réseaux. Pendant ces événements, la demande de services sexuels grimpe en flèche, offrant une opportunité pour les trafiquants d'exploiter davantage leurs victimes. On pense notamment au Grand Prix de Formule 1 qui attire des milliers de spectateurs. Et puis on voit souvent les autorités pendant cet événement faire de la prévention sur le problème de la prostitution à Montréal. Donc c'est un fléau justement principalement pendant cet événement-là, mais pas que. La lutte contre le trafic, c'est une tâche complexe. Les autorités locales comme la police de Montréal mènent des opérations régulières pour démanteler ces réseaux. En 2023, une opération majeure a permis de secourir plus de 20 jeunes femmes exploitées dans la région métropolitaine. Cependant, ces actions restent souvent réactives plutôt que préventives. Des organismes comme la Maison de Martre ou Plein Milieu jouent un rôle crucial en aidant les survivantes à sortir de cet enfer et à reconstruire leur vie. Ces organisations fournissent souvent un soutien psychologique, des formations, un hébergement sécuritaire, mais malheureusement le financement reste souvent un défi majeur. Ils n'ont pas assez de ressources pour répondre à l'ampleur du problème, surtout à Montréal.
C'est triste, pour vrai.
Ouais, c'est triste, surtout que les statistiques sont vraiment assez troublante. Tout à l'heure, j'avais dit que le Québec, c'était la deuxième province, enfin c'était la première province, mais dans les pourcentages, c'est ça représente à l'échelle du Canada 14% des affaires de traite au Canada. En vrai, quand même assez loin derrière l'Ontario, 66%. Le taux montréalais est de 9%. Au Canada, 95% des victimes sont des femmes et 72% sont âgées de moins de 25 ans. L'âge d'entrée dans la prostitution, puis c'est ça le pire, c'est que ça se situe entre 14 et 15 ans. Donc souvent, les trafiquants vont souvent justement cibler des personnes, des jeunes filles.
C'est terrible.
De jeunes âges, là, 14-15 ans, qui sont souvent, voilà, 14-15 ans, là, t'es un peu plus naïf qu'à 20 ans, on va dire. Donc,
t'es en crise, te séparer de l'autorité de tes parents.
Mais c'est aussi pire pour le monde qui le consomme, là.
Ouais.
C'est l'enfer.
C'est okay, excuse. Non, mais c'est
parce qu'on met tout le temps aussi la faute sur le monde qui embarque ces jeunes filles-là dans le crime sexuel, mais on oublie le monde qui consomme cette sexualité-là, des jeunes enfants.
Mais j'ai l'impression aussi que c'est parce qu'il y a tellement d'argent derrière ça aussi, parce qu'au Québec, on est comme, tu sais, très libertin, tout ça, mais ça peut avoir des répercussions aussi mauvaises comme ça,
d'être autant ouvert. C'est important de notifier le fait que, justement, je pense que on met le point sur les trafiquants, mais c'est vrai que les consommateurs sont, s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y aura pas de trafiquants là, donc c'est ça le pire, donc
Puis, je tiens à dire, je nommerai pas de nom par question de sécurité, mais moi, je connais quelqu'un de très proche de moi qui était très jeune et qui vient d'une très, très bonne famille et que, sans s'en rendre compte, elle a été un peu embarquée là-dedans. Finalement, elle a réussi à s'en sortir avant que ça arrive au point de ça. Mais tu sais, c'est très subtil. Puis dans Fugueuse, on le voit aussi dans la série que ouais. la personne se rapproche de toi et te fait croire qu'ils veulent une relation sérieuse, une relation amoureuse. T'es jeune, t'es, ouais. t'es vulnérable.
Ben, c'est puis ça. C'est fou parce que... Ben, excuse Tristan.
Non, non, vas-y, vas-y.
Mais moi aussi, j'ai vécu la même chose un peu avec des gens qui sont proches de moi. Puis j'en ai vu... genre peut-être un ou deux cas aussi de personnes que j'aurais jamais soupçonné qui venaient de bonnes familles, mais c'est quelque chose de beaucoup courant à Montréal surtout. Puis j'ai travaillé dans la DPJ aussi où j'en ai vu beaucoup aussi. Puis c'est fou qu'on s'imaginerait pas ça chez nous.
Ils sont manipulés vraiment. Puis dans les histoires souvent, qu'on entend, c'est souvent qu'on en sait l'histoire. Mais ça se passe sur des mois, cette manipulation-là. Ouais. Il y a une histoire d'amour qui se crée.
C'est ça, c'est souvent
de
partout.
Confiance. Puis tu sais, la personne dont je parle, elle se faisait manipuler dans le sens où la personne lui disait « Je suis vraiment mal pris, genre blablabla. Est-ce que tu peux m'aider? » Puis je pense que toi, t'es chanceuse. Toi, t'es chanceuse, t'as cette possibilité. Là, moi, je peux pas. Est-ce que tu peux venir en aide? Ça va être une ou deux fois.
Tu m'aimes, on est ensemble là-dedans.
Mais souvent, c'est ça, justement, les trafiquants, c'est, ils entretiennent une relation entre guillemets, mais amoureuse avec la personne. Ils essayent d'entretenir ça. Comme ça, c'est beaucoup plus facile après pour emmener cette personne là où le trafiquant veut l'emmener. Donc, c'est ça qui est souvent compliqué, c'est que. Une jeune fille de 14-15 ans, etc., qui devient amoureuse, ou même... C'est
très jeune, là, 14-15 ans, ben oui, tu connais rien de la vie encore.
C'est surtout que d'un point de vue extérieur, tu te dis tout le temps « Ouais, non, mais jamais je tomberai là-dedans, mais ça arrive tellement vite.
Ouais, »
Une fois que t'es en amour avec quelqu'un, l'amour en t'aveugle, c'est vrai.
Puis tu sais, la personne, souvent, est plus vieille, elle t'offre des cadeaux, elle t'offre des trucs, fait que c'est difficile pour une petite fille de vraiment savoir.
Puis ils sont forts pour cibler les gens qui sont plus seuls, plus vulnérables.
Bah, une personne sur quatre, 25% des victimes de traite au Canada ont moins de 18 ans. Donc, une personne sur quatre... que les consommateurs, entre guillemets, consomment...
Les consommateurs.
C'est des consommateurs.
Ouais, ben oui,
c'est
100%.
Mais c'est fou parce que...
Comme si on était de la marchandise, c'est ça qui est fou.
C'est un peu ça.
C'est vraiment troublant parce que 80% des auteurs impliqués dans les affaires de traite, donc on parle des consommateurs, sont âgés, sont des hommes âgés entre 18 et 34 ans, et 25% des victimes sont âgés de moins de 18 ans. Ça veut dire que c'est des majeurs qui clairement font des affaires avec des filles mineures. Donc moi je trouve ça vraiment scandaleux.
J'aimerais bien avoir l'autre point de vue. Parce que tu sais, nous là on défend justement les femmes, mais avoir l'autre point de vue, qu'est-ce qui les attire, pourquoi?
J'ai vu des documentaires que c'est des femmes pour payer leurs études. Qui voient pas d'autres, mettons, qui ont pas de filet
famille. Non, mais justement, l'autre côté, pourquoi les consommateurs, ils consomment ça?
Ah, la pulsion de l'homme, là, moi, simplement.
Faut écouter le rappeur Orelsan. Il a fait une chanson sur... ça s'appelle Les Putes, si je me trompe-tu?
Oui, je sais plus comment ça s'appelle. T'as une bonne culture française. Non, mais avoir l'autre point de vue, parce que, tu sais, les vieux hommes, c'est vraiment pas ce que je veux dire, mais tu sais, on a l'habitude, entre grands guillemets, mais tu sais, les personnes de 18 ans, tu vas pas me dire qu'ils ont vécu des événements traumatiques pour se renfermer dans ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire?
Tu veux dire pour aller consommer...
Parce qu'ils n'ont pas accès à la sexualité, nécessairement, comme tu
après,
dis.
Après, là, ça relève quand même de la pédophilie. Hein. Parce que c'est des gens de 30 ans qui font des affaires avec des filles de 14-15 ans.
Plus ils sont attirés, en plus. Hein.
Donc c'est pour ça, je pense pas que ça soit réellement... Parce que si, même si t'as pas, admettons, de relations sexuelles dans ta vie, tu vas pas chercher des filles de 15 ans. Hein.
Non.
Mais je pense que c'est une question de contrôle.
Mais c'est de plus en plus normalisé, on dirait aussi, par rapport à ça, par rapport à OnlyFans aussi au Québec.
Ben ça, c'est un problème Québec, aussi qu'on parle pas assez, mais ça, c'est fou.
Je connaissais des gens dans des écoles secondaires qui disaient que des petites filles de même 14-15 ans étaient là-dessus pour de l'argent.
Non.
Mais au Québec, je pense pas qu'on réalise l'ampleur.
Mais il n'y a pas beaucoup de réglementation, c'est ça le problème avec ça aussi, quoi. Donc, moi, j'appelle ça de la... Enfin,
ouais, mais qu'est-ce que tu veux réglementer?
Dans le fond, tout ce qui entoure la prostitution, c'est pas légal. Mais toi, t'as le droit, si tu veux, de faire ce que tu veux avec ton corps. Mais c'est le monde qui consomme, c'est la vente sexuelle. Mais ils peuvent pas interdire toi de faire ce que tu veux avec ton corps. Mais c'est vraiment tout ce qui entoure.
Cette règle est pour protéger les prostituées parce que s'ils se font battre ou ils reçoivent des. Sinon, ils auraient trop peur d'aller à la police s'ils pouvaient être incriminés pour vendre leur corps. Fait que c'est quand même, en vrai, la loi est quand même bien faite pour ça.
Ah, mais j'ai vu ça en plus il y a pas longtemps. Je sais plus si c'est en France. Je suis vraiment désolée. C'est juste que ça vient de m'arriver dans l'esprit. Je me rappelle plus c'est quel pays, mais ils viennent d'instaurer ça.
J'allais dire Belgique.
Ah bah voilà. Parfait. Vas-y, continue.
Non, non, mais justement, la Belgique, c'est le premier pays qui au monde qui a créé un contrat pour les prostituées. Donc, contrat de travail, assurance, retraite, tout ce que.
Syndicat.
Syndicat, je sais
pas, je pense que ça empêcherait pas quand ça empêcherait quand même pas le trafic puis le crime
c'est
sexuel.
Ben, c'est comme aux Pays-Bas, Amsterdam, il y a des manières, enfin comment ça s'appelle, le quartier rouge, etc. Là, mais ça empêche pas non plus. On sait qu'il y a quand même du trafic sexuel aux Pays-Bas.
Ouais, ouais.
Mais en tout cas, c'est quand même une première mondiale, donc c'est quand même une avancée. Là.
Juste pour être en lien avec ton sujet aussi, j'ai vu dernièrement, la semaine passée, que partout dans le monde, le sida, c'était un problème qui était de moins en moins courant, qu'il y en avait de moins en moins, sauf au Québec,
ouais,
qu'il y en avait de plus en plus. Fait que ça aussi, je pense que ça montre qu'au Québec, on a vraiment un problème au niveau de ça, au niveau de la traite sexuelle, au niveau... De ce sujet-là.
Mais en tout cas, le trafic sexuel, c'est un crime qui prospère beaucoup quand même dans l'indifférence et dans l'ignorance. Sensibiliser le public, c'est une première étape qui est essentielle. En tant que citoyen, nous avons un rôle à jouer, reconnaître les signes de traite, signaler les comportements suspects et soutenir les organismes qui œuvrent sur le terrain. Les gouvernements doivent, quant à eux, renforcer la législation. Ça passe par là aussi. Investir dans la prévention, parce que je sais pas vous, mais moi, j'en vois pas beaucoup de la prévention sur de la traite sexuelle. On n'en parle pas beaucoup. C'est des choses qui sont encore vraiment, vraiment, vraiment.
Mettons juste les jeunes en fugue, là. Tu sais, la loi, c'est. Ben, pour la police, on attend 24 heures. Si l'enfant n'est pas revenu. Mais en 24 heures, là, l'enfant peut être rendu loin, là. Ouais. Il peut s'en passer des choses. C'est fou. Parce que j'avais vu un reportage d'une mère, a dit je sais quand elle est en fugue, puis je sais c'est quand elle veut me faire suer. Puis là, elle veut pas me faire tuer, est en fugue. Mais la police, dans tous les cas, c'est attendre 24 heures. Ça doit être terrible pour un parent de savoir que ton enfant il est en traite de personnes, tu sais.
Ouais, non, c'est ça. Puis, c'est ça, meilleure prévention. Ça inclut aussi une meilleure éducation des jeunes pour qu'ils soient conscients des dangers, une plus grande protection des populations vulnérables et une collaboration internationale pour freiner les flux transfrontaliers, parce qu'il y a des traites aussi entre les pays, là, genre. Puis ça complique aussi beaucoup les choses. Mais c'est ça, Montréal, si riche, si dynamique soit-elle, porte un double visage. On en parle aussi souvent de l'industrie pornographique au Québec, puis particulièrement, bon, ça c'est encore autre chose, mais c'est important de souligner aussi. Sous ces rues animées et ces quartiers pittoresques se cache une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. Faire face à cette crise exige une action collective, un engagement durable et surtout une volonté de mettre la dignité humaine au cœur de nos priorités. J'en parlais justement parce qu'il y a un tout nouveau documentaire qui sera tout juste disponible sur Ici Télé jeudi soir à 21h sur ce sujet. Ça va parler de trois femmes exploitées dans leur vie qui vont témoigner dans Plaques Tournantes. Alice, Bianca et Sedna, elles sont toutes les trois été recrutées à l'adolescence et sortaient la nuit en cachette de leurs parents pour ça. Elles sont aujourd'hui sorties de ce trafic et leurs proxénètes ex-petite amie ont tous été condamnés à des peines de prison. Donc ça se finit plutôt bien, mais c'est pas souvent le cas non plus. La réalisatrice souligne le fait que on parle ici de filles qui n'ont pas décidé de leur plein gré de se prostituer. Ce sont toutes des filles de 15 ans victimes de manipulations, forcées de se vendre, souvent violentées, sans jamais tirer la moindre rémunération. Donc faut aussi diviser les deux, parce qu'il y a des personnes qui sont majeures et qui portent le choix de justement de le faire. Donc c'est ça, on a parlé des statistiques tout à l'heure quand même. Mais c'est important quand même de le souligner, genre encore, 80% des auteurs impliqués dans les affaires de traite sont des hommes âgés de 18 et 34 ans, et une personne, une fille sur quatre sont des victimes qui ont moins de 18 ans. Donc c'est à méditer, quelle est notre responsabilité en tant qu'individu et en tant que société face à cette tragédie moderne.
Vas-y Lauriane.
Mais non, mais moi j'avais une question et je l'ai complètement oubliée. Fait que je t'en prie.
Il n'y a pas de problème. Ben, on reste à l'affût de cette émission qui va être très intéressante. Merci beaucoup Tristan. C'est certain que c'est des enjeux auxquels la ville de Montréal doit s'adresser.
Ouais, c'est disponible sur Ici Télé, puis après si jamais vous pouvez pas regarder, c'est offert aussi sur tout.tv.
Puis je viens de me rappeler de ma question.
Ah, parfait.
Vas-y.
Et je viens de la réoublier.
Oh non, c'est
Dinguerie. Wow. C'est pas grave. Là-dessus, on se retrouve bientôt après une courte pause musicale où on écoute Pomme de William Papillon. Au retour, on va aborder le greenwashing et la discipline insoupçonnée des JO avec Lauriane. Vous êtes sur les ondes de CISM 89,3. Restez avec nous. Voyons donc. C'était Pomme de William Papillon. Vous êtes sur les ondes de CISM 89,3, la radio de la montagne de l'UDM. On rentre maintenant dans la bulle environnement avec Lauriane qui nous parle de greenwashing et de la discipline insoupçonnée derrière les Jeux olympiques. On la retrouve tout de suite.
Merci Mélissa, t'as tout dit. Il semblerait que le greenwashing est la discipline insoupçonnée des Jeux olympiques. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une stratégie de marketing visant à donner une fausse prétention écologique à une entreprise pour attirer les clients qui sont un peu plus soucieux de l'environnement. Mais une fois de plus, c'est Coca-Cola qui a remporté la première place aux Jeux olympiques 2024. Selon l'association France Nature Environnement, la marque de soda américaine s'est permis d'induire en erreur les consommateurs dans une campagne mensongère. En fait, c'était des pubs de gobelets consignés. On encourageait les spectateurs à acheter ces gobelets-là puisqu'ils pouvaient être recyclés ensuite et de les rapporter. Sauf qu'ils précisaient pas, en revanche, que les millions de gobelets étaient remplis à partir de milliers de bouteilles en plastique. Non, pardon, ça n'a pas de sens mathématiquement. Les millions de gobelets étaient remplis par des millions de bouteilles en plastique dans les coulisses qu'on jetait après ça en toute discrétion immédiatement après. Coca-Cola, il cesse pas de dépasser des records en testant les limites de la crédulité de sa clientèle. Le greenwashing, c'est pas la seule discipline dans laquelle la multinationale est experte. En tant que premier vendeur de boissons gazeuses au monde, Coca-Cola produit environ 4250 bouteilles de plastique par... Et là, je vous laisse essayer de deviner, OK? je répète, 400 250 bouteilles en plastique par heure, 400 minute, seconde.
Oh. 4000.
Oh my God. Attends,
4 250 bouteilles en plastique oui. par heure, minute, seconde.
Minute.
Par minute. Seconde.
C'est 4 250 bouteilles en plastique par seconde.
Oh mon Dieu.
En continu. Donc, un réel empire du plastique qui lui vaut le titre de plus grand pollueur au monde. Quelle quantité de matières plastiques sont considérées comme convenablement recyclées dans le monde, selon vous? Parce que, à savoir que ces multinationales-là qui produisent beaucoup de plastique se cachent souvent derrière l'idée que, mais inquiétez-vous pas, nos bouteilles sont recyclables. Mm-hmm. Genre, on règle le problème par la suite, mais en vérité, combien de pourcentages, vous pensez, moins de 25 % moins de 15 % moins de 10 % qui sont recyclés convenablement?
C'est quoi que t'entends par convenablement?
Convenablement, c'est que la durée de vie vraiment augmente.
Mm, OK.
Ben, moi, je pense que c'est moins de 10 % là.
Moi, je dirais 15 %
J'aurais moins. Dit 10 aussi, mais...
Dans le monde, c'est 9 % de matières plastiques qui sont réellement recyclées convenablement. Mm. Des chiffres, honnêtement, qu'on connaît, OK, c'est quand même sorti partout, sauf que les producteurs sont tellement bons à nous faire à croire qu'ils trouvent une solution à ce qu'ils produisent qu'on finit par l'oublier, nous aussi, derrière leur simagrée, leur belle pub hyper chaleureuse. Coca-Cola et Pepsi, d'ailleurs, sont très forts avec leur pub hyper chaleureuse. Mais la marque Coca-Cola est aussi ambitieuse dans ses chiffres que dans les droits humains qu'elle bafoue. On pense, entre autres, aux autorités colombiennes qui ont annoncé depuis août de cette année une enquête administrative contre une société d'embouteillage de Coca-Cola qui aurait capté de l'eau dans une municipalité, bon Dieu, dans une municipalité proche de Bogota, en pleine période de sécheresse et de rationnement. Quand on sait qu'il y a des gens là-bas qui mettent des poubelles sur leur toit pour pouvoir récolter de l'eau de pluie, tellement qu'il manque d'eau, puis après ça, tu sais que Coca-Cola est à côté, puis le volume d'eau qu'ils prennent par année, ça représente une quarantaine de piscines olympiques. Mm-hmm. Donc, c'est énorme. Et tout ça pour un produit qui apporte rien à la santé, qui apporte rien à l'écologie, tu sais, c'est quand même fou.
Mais en même temps, le plastique est partout, non? Tu sais,
C'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire qu'on en a besoin quand même. Veux pas.
Ben, on en dépend.
On en dépend. Ouais.
On n'a pas besoin, on en dépend.
Non, on n'a pas besoin, mais on en dépend dans tout, presque. Beaucoup
mais c'est que tu n'as pas beaucoup de choix. Secteurs. Tu vas à l'épicerie, tout est emballé de plastique. Ouais. Mais c'est juste que acheter ton fromage ou ta viande ou ton lait, mais même le lait maintenant est en carton, c'est dans des trucs de carton, mais. Du Coca-Cola, c'est pas nécessaire à la vie. C'est juste ça le point. Que le plus grand pollueur au monde, ça soit pour quelque chose d'aussi futile qu'une boisson gazeuse qui est mauvaise pour la santé, mauvaise pour l'environnement, mauvaise pour tout, à tous les niveaux, c'est ça qui rend fou.
J'avais vu un reportage en plus qui disait que le créateur de Coca-Cola interdisait ses propres enfants de boire du Coca-Cola.
Tu sais? Puis nous, on est là, puis on sert ça. Mais ouais, donc ça représente 40 piscines olympiques d'eau volées. Ben, je dis voler, techniquement, c'est légal, mais oui.
Puis j'ai vu aussi un autre article de la presse ce matin qui disait que ça se peut que, selon un rapport du Forum économique mondial qui a été publié en 2016, le poids de la pollution plastique dans les océans pourrait dépasser le poids estimé de poissons d'ici 2050. Fait que c'est vraiment grave. C'est comme
plus de poissons que de plastique.
Il y aura plus de plastique que de poissons.
C'est pas toujours le cas. Enfin, déjà le cas. Dans le sens
oui, moi, je suis surprise qu'on ne soit pas déjà rendu là.
C'est déjà le cas, mais ça pourrait le devenir dans 10 ans. Là.
Puis il y a une longue histoire d'amour, en fait, entre la Colombie et la multinationale. Il y a un documentaire sur l'ONF de German Oh mon Dieu, je suis désolée pour la prononciation. Germain Gutiérrez et Carmen Garcia qui racontent l'affaire Coca-Cola qui s'est passée de 2001 à 2009. Et en fait, c'est qu'il y a des usines de Coca-Cola sur place en Colombie qui engageaient des paramilitares. Mon Dieu, j'ai vraiment
mis ça.
Paramilitaires, merci. Je ne sais pas pourquoi j'ai essayé de le dire en espagnol. Clairement, je ne parle même pas espagnol. Puis, qui avaient des meurtres de chefs syndicaux dans ces usines-là, qui essayaient d'avoir des meilleures conditions de travail, d'augmenter leur salaire. Et ils se faisaient tuer, mais je pense que ça a duré des années, qu'un après l'autre, ils mouraient. Puis, Coca-Cola a promis, face à ces investigations-là, d'engager une compagnie externe pour enquêter. Et finalement, quand les journalistes et les militants sont allés questionner cette compagnie-là, la compagnie a dit qu'il n'y avait absolument aucune enquête sur le moment, qu'il n'avait reçu aucune demande. Donc, ils mentent, mais tellement facilement. Mm-hmm. Et nous, on est crédules en tant que personne, parce qu'on croit en la bonne foi des gens. Je veux dire, c'est quand même grave comme constat. Et ils le mentent, mais
avec un sourire dans le visage. Avec,
ouais, mais même s'il se passait de quoi, personne boycotterait Coca-Cola. C'est beaucoup trop gros pour que les gens se disent « Ok, on va arrêter de le consommer. »
Mais ça commence. Il y en a qui essaient de le faire, de le boycotter. Puis c'est parce que les gens ne sont pas au courant non plus. Tu sais, tu te demandes pas à chaque bouteille que tu prends donc, quelles conséquences qu'il y a. Fait, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui.
Problème, c'est dur à suivre aujourd'hui.
Le problème, c'est que c'est des marques qui sont tellement implanté genre dans la culture, dans la société et tout, que tu sais, c'est comme Nutella. Là, pendant longtemps, on a parlé de l'huile de palme avec Nutella, il y a eu des appels au boycott, etc. Tu sais, ça fait longtemps, ça fait de faire 10 ans qu'on en parle, tu vois. Aujourd'hui, il y a aucun recul parce que marketingement, même, enfin genre au niveau du marketing, puis c'est tellement implanté dans nos cultures que jamais ça appartient. C'est comme les McDo, les genres de genre de choses.
Mais tu penses aux cigarettes qui avant c'était implanté dans notre culture populaire, de fumer en voiture, fumer dans les écoles, fumer dans les avions, fumer. Pas parce que quelque chose est implanté que quand tu vois à quel point c'est néfaste, tu peux pas revenir en arrière. Les gens, s'ils veulent, s'ils ont la conscience, puis ils sont au courant de ce qui se passe, ils ont la volonté de changer les choses.
Ça, je crois que ça leur apporte de l'argent.
C'est possible,
Mais qu'ils vont rien faire.
Non, nous, en tant que... Moi, je bois plus de coca. Depuis que j'ai... non plus. On est toutes... Non, nous non plus. Mais...
Moi, je suis coupable.
Je pense que c'est quelque chose à couper qui est facile. C'est un plaisir coupable qui est très facile Puis il y a tellement de marques aujourd'hui qui existent.
Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de marques de boissons gazeuses maintenant qui sont beaucoup plus respectueuses de tout ça, de la santé, même de l'environnement et tout. T'as de plus en plus en vrai de boissons gazeuses dans ce style-là qui pourraient remplacer ce genre de choses.
Non, je suis pas d'accord. Je suis vraiment de l'autre côté de la médaille parce que je trouve que c'est inégalable. Genre, on en parlait tantôt au studio. Moi, quand j'étais petite, que je faisais des diètes et des régimes de je sais pas quoi, le coca, c'était le seul soda que j'avais le droit de boire parce que justement, c'était le seul qui existait à l'époque en format en format diète, pas de calories. Fait que moi j'ai toujours ce craving de ok, je finis ma journée, j'ai envie d'un petit coca avec des petites chips, puis ça va faire mon apéro.
C'est sûr que...
mais c'est inégalable le goût, genre quand t'es habitué au goût, j'adore les autres marques, mais c'est comme
Puis c'est sûr que leur marketing est tellement puissant aussi. C'est pas pour rien que Coca-Cola est la plus grande marque au monde, parce que genre le travail qu'ils font derrière ça, justement, de s'adapter. Et on a parlé qu'il y avait d'autres entreprises plus vertes que eux, mais ça reste qu'ils sont.
Après, c'est une question de confort. Si vous voulez, enfin, si les personnes ont envie de continuer à boire du Coca, c'est sûr que genre ça implique quand même dans le sens, mais à l'instant T, il reste quand même des solutions. Hein?
La production vient de la demande.
C'est ça. Mais du coup, chaque personne est responsable de sa consommation dans le sens où il y a quand même des choses qui existent pour remplacer ça. C'est juste que forcément, si on veut du coca, forcément le goût, c'est comme le Nutella, là, c'est pareil, c'est la même chose. Là. Si on recherche ça, on va aller vers ça, mais à ce moment-là, il y a quand même des choses qui existent à côté et qui sont super bonnes aussi.
Mais c'est fou parce que justement on parlait de marketing, mais c'est fou à quel point ils sont forts parce qu'ils arrivent toujours à se renouveler, ils arrivent toujours à réinventer des goûts. Tu sais, ils ont fait quoi, goût étoile, ils ont fait goût marshmallow, ils ont fait
comme
plein
McDo.
De choses.
Mais pour essayer de trouver... dans le sens qu'ils ont des segments, ils vont faire n'importe où dans le monde, ils vont s'adapter, tu vois, mais là ça serait bien qu'ils s'adaptent au côté environnemental même s'ils le feront pas.
Mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Comment tu peux... 4250 bouteilles par seconde. Comment tu peux faire ça autre qu'avec du plastique? C'est impossible. Moi, je pense que c'est juste une réduction. Pour vrai, moi, j'ai même pas de mots tellement que je trouve que c'est inutile comme source de déchets.
Je suis d'accord.
Des distributeurs de coca gratuitement à la maison. Voilà, j'ai dit ça. Je pense ça là.
Des grosses bonbonnes de coca.
Oui, il y a plus besoin de bouteilles. Faites couler ça du robinet, moi ça me va.
Mais juste avant de se quitter, moi, je trouvais aussi que ce qui était intéressant, tu parlais de culture populaire tantôt, Tristan. C'est fou comme Coca-Cola, c'est quasiment artistique aussi. Il y a beaucoup de gens qui le peignent, qui font des montages avec le logo, mais ça peut rester dans la culture populaire en termes de legs, genre de notre histoire, sans qu'on le consomme nécessairement. Je sais pas. J'ouvre le.
Ouais,
c'est pas nécessairement de tout abolir, pardon, puis de tout effacer de notre culture.
Mais ça fait méditer, c'est certain. Merci beaucoup, Lauriane, pour ce partage. On est déjà presque à la fin de ce 13e épisode, mais c'est pas encore fini. Vous êtes bien sur les ondes de CISM 89,3 à l'émission Bulle d'écoute. Avant de se quitter, on revient sur un fait d'actualité. Anne-Lie, tu voulais nous parler d'un fait que tu as vu dernièrement.
Oui, c'est tellement triste. Ça fait 2-3 jours qu'on en parle. Hier matin, il y a une partie des campements des sans-abri qui ont été démantelés au coin Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. C'est une décision du ministère qui aurait apparemment fait la demande cet automne. d'automne qui a eu l'approbation le 19 novembre dernier. Malheureusement, les sans-domicile fixe ont perdu leur peu de biens qu'ils avaient. Les ouvriers ont simplement tout jeté au conteneur. Il y a Patrick Vézina, surnommé Devon, qui est à la rue, qui a dit que les chiens sont mieux traités que nous. Il était vraiment fâché parce que là, il était relocalisé. Mais cette relocalisation-là l'a rejeté encore. Puis tout ça, il y a un manque de ressources. Tu sais, le directeur général de l'organisme anonyme, Julien Montreuil, a évalué qu'il allait avoir 200 places supplémentaires qui ont été créées à Montréal dans les haltes chaleurs en prévision de l'hiver. Mais il y a quand même un manque de ressources parce qu'il y a 1000 personnes en ce moment environ qui dorment à la rue.
C'est vraiment triste.
Vraiment, vraiment triste. Tu sais, il y a eu une invitée, à tout le monde en parle, Annie Archambault, justement, qui disait que les ressources sont manquantes, qu'elle-même était à la rue, puis elle a dit que si elle a eu la chance, il y a 5 ans, d'être relocalisée, d'avoir les bonnes ressources, les ressources qu'elle demandait, qu'elle avait besoin, des lits, mais elle a dit qu'aujourd'hui, elle ne serait pas sortie, puis qu'elle serait malheureusement encore à la rue. Je vous invite à écouter tout ce beau segment, tout le monde en parle, c'est vraiment touchant. Mm-hmm.
Mais ouais, c'est comment dire, j'ai vu un reportage l'autre jour aussi, parce que le problème c'est qu'aussi, moi j'habite à Verdun, là, puis il y a souvent genre au bord du Saint-Laurent, là, des personnes, mais l'été, genre printemps, été, etc. Puis c'est compliqué parce qu'il n'y a aucune, ils partent, mais il n'y a aucun hébergement, etc. Les hébergements sont full.
Mm-hmm. Genre, fait que là en ce moment, les métros, les banques sont pleines parce qu'ils enlèvent leur campement sur Notre-Dame. Mm-hmm. C'est triste.
Oui, c'est sûr. Mais c'est déjà l'heure de se dire bye sur ce. On se quitte ici pour aujourd'hui, mais restez à l'affût.
Pour savoir que ça allait arriver.
Notre prochain et dernier épisode de Bulle d'écoute, car on aura une émission qui va être très spéciale. D'ailleurs, vous pouvez voter sur Instagram et nous dire ce que vous aimeriez que l'on fasse pour terminer la saison. On a bien hâte d'entendre vos commentaires et de vous livrer aussi cette émission qui sera très colorée. Pour réécouter cette émission ou tous nos épisodes précédents, vous pouvez tous retrouver sur Spotify, Apple Podcast ou sur le site du CISM.ca. Sur ce, on se dit à mardi prochain, même heure.
Bye! Bye, tout le monde. Bye. Bonne soirée, Lauriane!
Bonne soirée! Bye!
Ici Alex Burns, vous écoutez CISM.
Montréalais Dear Criminals est de retour avec 2 concerts exceptionnels au Théâtre Outremont le samedi 7 décembre. À 14h, une expérience musicale pour toute la famille, leurs chansons phares dans une formule trio intime dans le cadre du concert pour toutes les oreilles. À 20h, un concert grandiose avec 6 musiciens invités. Billets en vente sur théâtreoutremont.ca, section spectacle.
Chers auditeurs CICM, salam, ici Nora, artiste marocaine basée à Montréal. Alors à tous les amoureux de la R&B, soul, jazz, à saveur afro-pop, maghreb-pop, et à tous les esprits engagés en soif de messages de paix, espoir et de tolérance, je vous donne rendez-vous le 12 décembre au ministère pour venir célébrer le spectacle de lancement de mon dernier album, Better Days.
Que c'est un bon vieux band de rap. Mais non, c'est Victime qui viennent de faire un live à CISM. Écoutez ça et n'oubliez surtout pas de bien toquer la boue.
Salut, ici Hawa B. Vous écoutez CISM.
Can I get a taste of your medicine? I need to forget how it feels when I sin. The rush, the excitement, the guilt and the shame. When the good and the bad looks the same.
Salut, c'est Saratoga, vous écoutez CISM.
Toutes les sorties de route ce soir mènent à toi. Le motel et la place à tes côtés sont vacants. Comme si on était dû pour se perdre au même endroit.
m'appelle Martha Charlotte Wainwright.
Allô, ici la Rinx.
Allô, on est les Hey Babies.
Oh, c'est Thierry Larose.
Allô, c'est Vendredi sur mer.
Bonjour, ici Claude Pelgag et j'écoute les Charlottes.
Et j'écoute les Charlottes.
J'écoute les Charlottes parce qu'elles m'écoutent aussi.
Et on écoute les Charlottes.
J'écoute les Charlottes parce que c'est la meilleure affaire depuis le band Rush.
J'écoute les Charlottes parce qu'elles ont ce je ne sais quoi qu'on adore.
Les Charlottes, tout le monde écoute ça depuis 2010. Ça se passe tous les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM 89,3.
Vous écoutez CISM 89,3 FM.
Cette émission est une rediffusion.